Alors, des squelettes entiers, à ma connaissance, on n'en a trouvé qu'à un seul endroit. Donc, c'est situé en fait à 5 km du site du Club d'Oral sur la commune de Bâche. Et du coup, c'est le site qui s'est dit du Garouillas. Donc, c'est un site très important pour la paléontologie. C'est l'une des références mondiales en fait pour la paléontologie. On a la chance d'avoir un caducotère en connexion anatomique que vous verrez au fond des phosphatières. Après, on a trouvé d'autres caducotères ailleurs. C'est pour ça que vous avez une période plus longue en fait, hein. Mais on en a trouvé des bouts. Et c'est lié en fait au mode de remplissage des phosphatières, c'est-à-dire des animaux entiers tombent rarement dans les phosphatières. C'est souvent des bouts d'animaux. Alors cette phosphatière-là, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont venus un petit peu partout dans le Tarn-et-Garonne. Les plus au sud, c'est Montricou et Bruniquel, en fait, sur lesquels ils sont venus. Et ils ont fait pas mal d'études ici autour de Saint-Antonin. Également, ils obtiennent à peu près chaque été l'autorisation du camp militaire de Quélus également pour aller fouiller à l'intérieur. Donc oui, effectivement, étant donné la répartition en fait des phosphatières côté Tarn-et-Garonne, ils ne se sont pas concentrés uniquement sur le département du Lot. Alors après, j'ai oublié un autre département limitrophe qui est l'Aveyron également. Il y a également des phosphatières qui sont situées du côté de Villeneuve-d'Aveyron en fait. Et là aussi, ils les ont étudiés. Voilà. Donc c'est sur 3 départements en fait qu'ont eu lieu leurs recherches. Encore une fois, les recherches paléontologiques ne s'arrêtent pas aux frontières d'un département.
Moi, j'ai une question à poser, mais pas à vous, mais à l'assistance. Qui parmi les personnes présentes a déjà vu la phosphatière de Bâche? Ah, vous êtes tous allés. Vous y êtes presque, la moitié au moins est venue d'ailleurs.
J'aurais peut-être dû démarrer par cette question au départ,
Oui, c'est
d'ailleurs.
vrai, je voulais la poser et j'ai
Oui, c'est
oublié.
vrai.
Dominique, tu voulais dire.
Est-ce qu'il y a ailleurs en France d'autres sites moins importants mais qui ont produit des phosphorites?
Oui.
Il me semble qu'il y a
Oui,
d'autres. Alors,
bien
est-ce que
sûr.
c'est les mêmes conditions géologiques ou est-ce que c'est une autre histoire?
Alors, il y en a qui sont dans les mêmes conditions géologiques, c'est les phosphatières qui sont situées du côté de Tavel, dans le Gard, en fait, entre le Gard et l'Hérault. Là, elles se sont formées de la même façon que ce que j'ai indiqué là. Et après, par contre, il y a eu des phosphatières qui ont été exploitées dans le nord et le nord-est de la France. Donc il y a toute une zone entre le Pas-de-Calais et la Somme en fait qui a été exploitée. Donc là au niveau de la roche c'est pas tout à fait pareil, c'est de la craie en fait, de la craie grise de Picardie. Et donc là-dedans on trouve des fossiles un petit peu différents. Et également donc on en a trouvé dans les sables verts des Ardennes en fait, entre la Meuse et les Ardennes. Alors du coup là c'est pas les mêmes conditions de formation parce que ce qu'on y trouve c'est essentiellement des fossiles marins. Donc notamment des ichthyosaures. Alors en gros, le mot est pas bon, hein, mais des sortes de dinosaures marins en fait, des animaux aussi gros que les dinosaures, mais qui vivaient dans les océans, qui ont disparu il y a 65 millions d'années. Donc en fait, la plupart de ces phosphatières se sont formées sous la mer et donc au Crétacé. Voilà. Donc, mais effectivement, des phosphatières en France, il n'y en a pas que dans le Quercy. Par contre, ce type de formation est très rare parce que du coup, là, en France, on a la chance d'avoir 2 régions dans lesquelles on a des phosphatières dans le calcaire. Et dans le monde, il y a une troisième région qui est la Thaïlande. Et partout ailleurs, il n'y en a pas.
Là, puis je voulais juste faire un clin d'œil sur les espèces disparues qui ont un rapport avec les phosphates. D'abord, le chemin de fer, hein, qui a beaucoup tiré de profit et de trafic de l'exploitation des phosphates et de leur transport, et les moulins. Alors, ce serait intéressant parce que je n'ai pas de liste exacte des moulins qui se sont transformés, qui se sont adaptés pour écraser les phosphates donc dans le secteur de Saint-Antonin. Enfin, mais c'est aussi une espèce disparue. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'après, bon, là, je me suis concentré sur la paléontologie, mais c'est vrai que rien que sur l'exploitation minière, j'aurais pu faire la même durée en fait de conférence. Donc, dans la vallée de la Bonnette, il y a énormément de moulins qui ont servi à faire de la farine, mais qui ont également servi effectivement à broyer la phosphorite en poudre. Et donc notamment, j'en ai un en tête, c'est le moulin du Barry de Casse, donc qui a sur ses parois en fait encore présentes des traces de phosphate ou de phosphorite.
Alors, j'ai une question pratique. Oui. J'étais à Foissac il n'y a pas longtemps et j'ai vu que vous faites partie d'un réseau qui s'appelle Géo ou Paléo, quelque chose.
Oui, tout à fait. Voilà, oui. C'est vrai qu'au départ, je voulais en parler et puis j'ai enlevé les diapositives. Bon, mais je vais en parler quand même parce que ce réseau est important. Alors, on est dans un réseau qui s'appelle les Paléonautes. Donc, c'est un réseau, en fait, qui... peut-être je vais... juste un instant, je vais prendre un autre diaporama que j'avais précédemment, dans lequel j'avais cette diapo. Alors juste un instant,
et essayer de le retrouver. Après, donc ma question était plus sur de l'histoire scientifique.
Oui.
Il me semble, sauf si j'ai zappé, que vous n'avez pas parlé de la première théorie de soudure des continents en comparant les fossiles trouvés à les fossatières du Quercy et celles trouvées en Amérique.
Oui. Alors,
la validité de cette théorie ou...
Oui, la validité de la tectonique des plaques, en fait.
Oui.
C'est ça.
La première hypothèse.
Oui. Alors, bon, ça, c'est, ça a été fait aussi sur d'autres fossiles que les fossatières. Si j'ai bonne mémoire, là, donc, c'est la première théorie qui a été la théorie de la dérive des continents au début du XXe siècle. Donc, c'est un géographe, en fait, qui l'a émise. Par comparaison, effectivement, de fossiles qu'on trouvait sur les côtes de l'Afrique et sur les côtes de l'Amérique du Sud. Et il s'est aperçu que l'âge des terrains était identique et qu'on trouvait les mêmes fossiles aux mêmes âges des deux côtés. Et donc est venue l'idée que, ben, à un certain moment, ces continents étaient réunis et qu'après, ils se sont séparés. Alors, quand il a présenté sa théorie aux géologues, ils lui ont tous rionné en lui disant que bah, il n'était pas un géologue. Et donc, du coup, bah, sa théorie était complètement farfelue. Et là, de nouveau, il a fallu attendre après la guerre pour que, effectivement, d'autres gens se réintéressent à ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est une façon de savoir où étaient les différents continents au fil du temps. Donc il y a des paléontologues qui sont spécialisés, des géologues qui sont spécialisés dans la détermination de cartes paléogéographiques. Et donc plus que les fossiles, on réunit en fait les terrains en fait, et on regarde à une certaine époque si on ne trouve pas les mêmes, et du coup on retrouve en fait la position des continents. Alors au niveau des fossiles, des fossatières du Quercy, quand on compare les animaux présents en Europe et puis en Amérique par exemple à l'époque qui est là, étant donné que la Terre, alors j'ai pas les visages de la Terre à cette époque-là, mais vous regarderez sur Internet, vous tapez carte paléogéographique, vous verrez qu'il y a 50 millions d'années, en fait, on a en fait les continents qui sont séparés comme aujourd'hui. L'océan Atlantique est pratiquement aussi large. Donc en fait, il y a des animaux qui ressemblent aux animaux des phosphatières en Amérique du Nord, mais ce ne sont pas les mêmes parce qu'il y a un océan qui les sépare. Voilà. Et donc, mais à d'autres époques, donc effectivement, cette théorie, pour l'instant, est validée. Alors, juste une petite parenthèse que je dis toujours aux élèves qui viennent me voir. La science, en fait, c'est une science qui évolue au cours du temps. Un scientifique qui dit « j'ai une vérité absolue », ben, c'est pas un scientifique. Et, le doute fait partie de la réalité scientifique. Donc, aujourd'hui, je dirais que la théorie de la tectonique des plaques est la théorie, donc, qui concourt le mieux à l'ensemble des observations qu'on trouve à la surface de la Terre. Alors les paléonautes, oui, c'est l'autre question. Donc les paléonautes, rapidement, c'est 8 sites en fait du Quercy. Alors là aussi, le Quercy au sens large, on est allé au-delà des frontières et on espère très bientôt encore aller au-delà d'une autre frontière. Donc il y a 6 sites du département du Lot qui sont dedans, qui sont la grotte de Pêche-Merle, la plage Opterosaure près de Cahors, il y a les phosphatières du Club d'Oral, le site archéologique des Fieux, la grotte de Cougnac et la grotte de Pêche-Merle. Et donc on a en 2012 rattaché au Paléonautes effectivement la grotte de Foissac que vous avez citée, qui n'est pas très très loin d'ici, et le musée de l'homme de Néandertal qui est à la limite de la Corrèze et du Lot. Et donc on a été contacté récemment et on a accepté récemment d'ailleurs leur candidature en tant que membre associé. Donc le village de Bruniquel, en fait, la mairie de Bruniquel va devenir adhérente en fait en tant que membre associé au réseau des Paléonautes, puisque là, bah, une découverte assez exceptionnelle a été réalisée avec cette grotte, avec des traces de passage d'hommes de Néandertal au niveau de Bruniquel. Et donc on attend un petit peu que quelque chose soit visible du public pour les intégrer officiellement et devenir le 9e membre en fait de ce réseau archéologique et paléontologique du Quercy. Et donc là, on aura également, du coup, sur 4 départements, donc le Lot, la Corrèze, l'Aveyron, donc pour l'instant c'est 3, et le Tarn-et-Garonne, on espère très bientôt.
Merci. Oui, question un peu parallèle.
Oui.
Vous avez parlé d'un certain Jean Poumarède.
Oui, Jean-André Poumarède, oui.
Est-ce que vous avez quelques informations sur son, là où il habitait, etc. Je vous demande ça parce que un certain Jean Poumarède a habité Saint-Antonin. Ses descendants auraient, mais bon, demandé à ce que la mairie donne, attribue son nom à une rue de Saint-Antonin et ça leur a été refusé. Mmh. Bon, c'est une anecdote, mais liée donc peut-être à ce Jean Poumarède.
Oui. Alors, c'est Jean-André Poumarède. Lui, il était plutôt du côté de Réalville, en fait, au niveau de son origine. Après, bon, il avait un cousin du côté de Quélus, donc ça veut dire que ça se rapproche un petit peu. Après, je ne connais pas sa généalogie exacte, d'autant que le nom de Poumarède est assez répandu par ici. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un lien de parenté, mais je ne pourrais pas confirmer qu'il y a un lien de parenté avec les Poumarède de Saint-Antoine et ceux de Réalville.
À travers le monde, oui. Là. Et en Afrique du Nord, il y en a pas mal, du côté du Maroc, oui. Je ne connais pas. Mais il se trouve que j'ai fait une colonie sous les drapeaux sur la frontière tunisienne, là, où il y avait une montagne de phosphate qui allait être exploitée, puisqu'on a construit une voie ferrée au sud de Tébessa, côté algérien. Qu'est-ce que deviennent ces phosphatières qui sont des montagnes ? Est-ce qu'on trouve des sites de enfin, je ne sais quoi, là. Est-ce qu'on trouve quelque chose ?
Alors en fait, oui, bon, j'ai parlé de la France parce que la question est venue tout à l'heure, et puis c'est vrai qu'on peut élargir au monde entier, donc bah, juste outre Méditerranée. Donc en fait, les phosphatières d'Afrique du Nord sont très importantes. Alors le Maroc, c'est le premier exportateur mondial, la Tunisie, ça doit être le cinquième ou sixième. Il y a de très importantes exploitations de phosphates au Maroc et en Tunisie, donc effectivement ça fait des montagnes de phosphate. Donc les phosphatières du Maroc et de Tunisie en fait sont du type de phosphatières que j'ai présenté tout à l'heure là, donc des phosphatières dites marines en fait, formées sous la mer. Et donc dans lesquels on trouve aussi des dents de requin, on trouve des ichthyosaures, etc. Donc au niveau paléontologie, il y a quelques travaux qui sont réalisés. Là, j'ai vu passer qui date d'une dizaine d'années, un article qui avait été fait sur les phosphatières du sud du Maroc, où une équipe de paléontologues avait été autorisée à fouiller certains gisements. Donc ils avaient trouvé de très très belles choses, des squelettes entiers d'ailleurs d'ichthyosaures. Mais le phosphate étant très très cher. En fait, ces exploitations, c'est un petit peu comme au 19e siècle, c'est-à-dire que les scientifiques, on leur laisse parfois venir, mais bon, après, la plupart du temps, comme c'est de l'argent, en fait, on broie en fait tout ce qu'on trouve, et donc malheureusement, là aussi, beaucoup de fossiles sont détruits. Mais quelques études ont été menées, effectivement, sur ces phosphatières-là. Alors en Alsace, c'est un autre composant de l'engrais, c'est de la potasse. Donc en fait, c'est du potassium qu'il y a dedans. Mais effectivement, c'est des exploitations comme ça. Alors après, j'ai pas d'informations sur la formation de ces mines de potasse.
C'est du sel. C'est des mines de sel un peu. Est-ce que je peux vous demander comment on devient paléontologue aujourd'hui ? Quelle est la formation ? Quel est le cursus ?
Alors c'est une longue formation, puisque donc il faut faire une licence scientifique donc pendant 3 ans, donc plutôt généraliste, mais plutôt côté biologie, géologie en fait. Et puis après se spécialiser donc en master, master 1, master 2, donc jusqu'à bac plus 5, prendre une spécialité paléontologie. Et puis à partir de là, donc être assez bon au niveau des examens pour pouvoir intégrer une école doctorale. Donc là aussi, les meilleurs sont pris et puis les meilleurs des meilleurs sont subventionnés pendant leur thèse. Et puis après, la dernière étape, c'est de trouver un poste. Donc, parce que là, de nombreux étudiants, et c'est le cas, vous avez devant vous, en fait, l'un de ces exemples, en fait, de nombreux étudiants doctorants, parce que je ne me suis pas présenté comme ça, mais j'aurais pu me présenter comme docteur Frédéric Bérard, mais ça n'a rien à voir avec le domaine. Je suis docteur en génie des procédés, en fait, donc fabrication des produits chimiques. Et donc ça a été un petit peu mon cas, et c'est le cas de beaucoup de paléontologues. Quand vous arrivez au bout de ce cursus, que vous avez fini votre thèse, que vous avez été dans les meilleurs, etc., il faut trouver un laboratoire, et le nombre de postes est très 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 restreint. Et en paléontologie, c'est encore pire qu'en chimie ou en génie des procédés, il y a vraiment très très peu de postes, et donc il y a vraiment très très peu d'élus pour finalement faire beaucoup d'études. Donc c'est un cursus très long en fait, donc il faut faire 7 ans d'études après le bac déjà pour avoir la thèse, au moins. Sinon 8, parce qu'une thèse, ça ne se fait pas en 2 ans, ça se fait en 3 ans. Et puis après, faire des post-doctorats, etc. Donc au moins 10 ans d'études avant d'espérer d'avoir un poste. Voilà.
Alors, pardon, moi j'ai une question. Vous avez dit un truc qui m'a horrifié.
Oui.
Vous avez parlé de production de phosphore.
Oui.
L'extraction de phosphore. Ce phosphore, une fois qu'il est utilisé comme engrais pour les plantes, qu'est-ce qu'il devient? Il est mangé par les racines et il passe où?
Alors ça, c'est le problème aussi. Donc l'utilisation des phosphates comme engrais, ça serait toute une conférence là aussi. Donc en gros, ce que je dirais, c'est que le phosphate est nécessaire pour la pousse des plantes. Les plantes en ont besoin pour développer leurs racines et de faire plus de beaux fruits. Donc on en a fait à partir de là une technologie qui sont les engrais. Et comme toute technologie, ça dépend comment on s'en sert. Or, pendant des années, alors après, c'est pas spécialement la faute des agriculteurs, loin de là, c'est peut-être aussi celle des industriels qui ont voulu vendre un maximum les choses. Hein. On a dit longtemps, plus vous mettrez de phosphate dans les sols, je caricature un peu involontairement, plus ça poussera en fait. Et donc en fait, ce que les plantes ne peuvent pas absorber, ça part dans les sols, ça va provoquer des problèmes même de stérilisation de sol, et le surplus va partir après dans les eaux de ruissellement, aller faire des pollutions, parce que le phosphate étant un bon engrais, ça crée des problèmes de développement d'algues, de phénomènes qu'on appelle eutrophisation, c'est-à-dire des algues vertes sur les cours d'eau qui tuent toute vie dans la rivière. Et en fait, du coup, on en arrive à une très mauvaise réputation du phosphate aujourd'hui, puisque le sans-phosphate devient un argument de vente écologique, alors que le phosphate, s'il n'y en a pas dans le sol, on n'a pas de plantes, et du coup, ça ne pousse pas. Et c'est en fait l'industrialisation du phosphate et de l'agriculture qui a donné mauvaise réputation à ça. Voilà, effectivement, on le retrouve dans les eaux de ruissellement. Et effectivement, le phosphate à outrance est un polluant. Oui. Alors, le superphosphate, en fait, c'est un nom qui a été donné aux produits transformés, parce que là, je vous ai parlé de phosphorite. Je n'ai pas spécialement détaillé là non plus le procédé. Donc, la phosphorite est récupérée. Et le processus historique, c'est qu'on va mélanger en chauffant un très très grand récipient, donc un réacteur chimique, avec de l'acide sulfurique. Donc on mélange la poudre de phosphorique à de l'acide sulfurique et on obtient de l'acide phosphorique. Donc on va en faire des petits granulés et c'est ces petits granulés qui sont nommés superphosphates.
Merci. Juste une question historique en fait.
Oui.
On dit ici que dans les années 70, donc, les Anglais ont exploité le phosphate. Est-ce que c'est vrai? Ça a duré combien? Est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est dans les années 1870,
oui,
en fait.
Oui, bien
voilà.
Sûr.
Oui,
non,
tout
non,
à fait. Voilà. Alors, les Anglais, oui. En fait, c'est des sociétés anglaises et belges au départ, principalement. Alors, quelques sociétés françaises qui ont exploité, mais c'est essentiellement des sociétés anglaises et belges, en fait, qui sont venues exploiter ces phosphatières de chez nous. Alors, la raison, c'est qu'en fait, l'industrie française n'avait pas encore développé tout à fait les procédés de fabrication d'engrais. On ne s'était pas tout à fait mis à l'agriculture intensive, tandis que les Anglais, qui étaient habitués depuis Napoléon avec le blocus à doper leur agriculture, avait développé à la fois par la révolution industrielle et par cette habitude d'augmenter les sols pour augmenter leur rendement, ils étaient habitués des engrais. Donc du coup, ce sont eux qui avaient les sociétés suffisamment organisées pour pouvoir créer des infrastructures. Et d'autre part, ils étaient, comme ça revenait très cher, ça serait que je ne l'ai pas dit, mais la chaîne du phosphate, il fallait payer le paysan pour lui louer son terrain, donc parce qu'en fait, les propriétés restaient celles des gens locaux, en fait, qui louaient les terrains à sociétés principalement anglaises ou belges. Il fallait rémunérer les mineurs pour descendre à l'intérieur. Beaucoup d'accidents se produisaient, ça non plus, j'en ai pas parlé. Donc du coup, il fallait les payer cher, parce que sinon, ils ne voulaient pas descendre. Leur famille était payée aussi pour trier la phosphorite. Il fallait payer les gens pour transporter dans les charrettes, les meuniers pour broyer le phosphate. et puis les jambes pour transporter dans les gabarres, dans les bateaux, etc. Au final, ce matériau revenait très très cher. Et donc les Anglais, à l'époque, avaient la puissance industrielle et la puissance financière pour pouvoir payer ça, en fait. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, beaucoup d'Anglais sont venus ici exploiter les phosphatières donc en tant qu'entrepreneurs. Alors, donc l'exploitation, elle a démarré en 1870. La période des Anglais, entre guillemets, elle a duré à peu près jusqu'en 1887-1890. Là, ça correspond à la découverte, ben, justement, des phosphatières en Afrique du Nord et en Floride, moins chères à exploiter. Donc, les Anglais vont partir alors. Et alors, quelques sociétés françaises vont rester. C'est comme ça que le Club d'Oral, le site qu'on fait visiter, plus les phosphatières au-dessus de Cajar jusqu'en 1926, vont être exploitées par des Français, mais là, en commerce local, sans le faire transiter. Voilà. Donc du coup, effectivement, ce sont des Anglais qui ont exploité la première partie, les bien premières années, et puis après, plus des Français, mais sur des tonnages beaucoup moins importants.
Et comme on est au Second Empire, on a un investissement en chemin de fer pour rentabiliser vite, ce qui explique la ligne droite Caylus, avec les restes de gare au-dessus de Caylus.
Voilà, exactement. On le voyait sur ma carte tout à l'heure. On a en fait, effectivement, au sud de la carte, bon, j'arrive pas à le mettre, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe pas bien là, je sais pas trop ce qui se passe. Donc, sur la carte, en fait, effectivement, il y a une ligne de chemin de fer entre Caylus et Caussade, effectivement, en ligne droite. Et il y a une ligne de chemin de fer aussi qui passe par ici, en fait. Donc c'est la route, en fait, qui est derrière, là, qui rejoint Lexos, voilà. De Lexos à Montauban, je pense, qui est la ligne de chemin de fer. Et du coup, celle-là donc, avait été faite pour exploiter plutôt il y avait des mines de minerais de fer, en fait, du côté de Lexos. Et on a chargé les phosphates au site Saint-Antonin sur cette ligne de chemin de fer. Donc par ici, effectivement, c'était les chemins de fer qui transportaient ces phosphates. Et à Bruniquel aussi, oui, bien sûr, ça passe par Bruniquel. Oui.
Si on voit cette exploitation du phosphate comme un cycle spéculatif, comme il y en a eu d'autres, pas longtemps après, avec le caoutchouc ou d'autres produits, est-ce qu'on a étudié dans l'histoire économique l'impact que ça a eu sur l'économie locale, ce cycle du phosphate qui a duré 20 ans? Ça a produit le chemin de fer là-bas, oui.
Mais bien en fait, localement, bon, il y a quelques maisons qui sont belles, etc., notamment sur Cajar, ça c'est lié aux sociétés françaises qui se sont montées par la suite. Mais la plupart du temps, c'était des paysans locaux. Donc, alors, on les présente comme pauvres, mais ils n'étaient pas spécialement pauvres, enfin, ni pauvres ni riches, en fait. Voilà. Et pendant la période d'exploitation, alors, ça a été ni un Eldorado, ni quelque chose, une exploitation énorme. En gros, c'est des revenus qui ont permis à la population locale de mieux vivre. Donc, en gros, les gens ont permis d'étendre leur maison, de pouvoir acheter des ustensiles, d'acheter des charrettes, d'acheter des charrues, etc. Donc c'est venu en complément quand même parce que à l'époque, il y avait beaucoup de vignes sur ces causes du Quercy, donc notamment dans la partie nord, là, du côté du Lot, on faisait partie du vignoble de Cahors. Et c'était ce vignoble de Cahors qui faisait la véritable richesse du coin. Et le phylloxéra est venu par-dessus, donc c'est une cause complètement indépendante du phosphate, qui a fait que la moitié des gens est partie, donc ça a complètement vidé ces causes du Quercy de sa population. À l'époque, il y avait deux fois plus de monde dans le Lot qu'aujourd'hui. Dans le Tarn-et-Garonne, je ne sais pas ce que ça donne par ici, mais certainement que l'histoire se ressemble un peu. Hein. Et il y a eu un oubli en fait de cette exploitation. Ça aussi, c'est l'un des rôles de départ en fait qui a motivé la population locale, enfin quelques membres de la population locale, à créer le site du Club d'Oral. Ça a été de redonner sa mémoire à la population locale vis-à-vis de cette exploitation. Parce que du coup, il y a des gens qui pensaient que les Anglais étant partis, ils les avaient floués, c'était un mauvais souvenir à effacer. Il y en a d'autres qui disaient que c'était l'Eldorado absolu, qu'il y avait des fortunes énormes qui s'étaient faites là-dessus. Donc il y avait tous les extrêmes. Et du coup, l'ouverture du site depuis 20 ans a permis de un petit peu restituer la mémoire à sa juste valeur en fait, à la population locale. Voilà. Donc effectivement, ce n'était pas énorme, c'était le vignoble en fait, qui faisait la richesse et ça venait compléter cette richesse-là.
On dit aussi que le pont, que nous avions un très joli pont qui ressemblait à celui de Cahors avec trois tours et des portes et que pour permettre aux camions de passer, délivrer le phosphate à la gare qui est de l'autre côté de l'Aveyron, ils ont arasé le pont, élargi le pont et donc enlevé nos trois jolies tours et que c'est bien dommage.
Oui. Ça, c'est pareil, oui. On a des documents, alors c'est pas des ponts, des choses comme ça, mais on a des documents du début du XXe siècle où des gens se plaignent, en fait, au préfet du Lot. Là, c'est du côté Lot, parce qu'en fait, on a les documents de là. Ils se plaignent et ils demandent à ce que les sociétés exploitantes indemnisent et refassent les routes, parce que les charrettes, parce que c'est essentiellement des charrettes, mais très très lourdes, qui transportent le phosphate, sont d'énormes ornières sur les routes et détruisent complètement les routes. Donc ça rejoint un peu ce que vous dites, là, effectivement. Ça a fait un petit peu de dégâts dans l'infrastructure routière, ces tonnages de phosphate.
Notre blason a toujours ses trois tours d'accord. sur le pont, ah oui. donc l'honneur est sauf.
C'est bien. Ouais. À Caylus, maintenant, on a un cambinitaire pour rentabiliser le, oui, le oui, désert.
Oui. Je comprends que vous avez hâte d'aller voir ceux qui n'ont pas vu encore. Non, mais en réalité, je redis, le dialogue avec la paléontologue, c'est vraiment intéressant.
Oui.
Et je pense que... Je ne sais pas s'il y a des ouvrages accessibles pour le grand public, pour nous, en paléontologie, c'est probablement à base de travaux oui. scientifiques peu accessibles. Est-ce qu'il en existe quand même qu'on peut
à
lire.
Développer dans le futur. C'est vrai que c'est des ouvrages un peu compliqués. Nous, on a sur le site le compte-rendu en fait, de la conférence qui a été faite en 2006. Alors il y a des choses intéressantes au départ parce que il y a ces histoires d'exploitation de phosphate dans le nord de la France, etc. Après dedans, ça finit par des articles notamment de Gilles Escarguel là, sur les scénogrammes, entièrement en anglais avec des statistiques dans tous les sens. La fin est carrément imbuvable. Mais oui, le début peut être lu. Moi c'est vrai qu'on n'a pas trop de temps sur le site, mais moi ce que j'aimerais bien faire, c'est un petit peu un grand livre en fait des phosphatières, un petit peu regroupant un petit peu tout ça. Donc on a un petit livret ici qui fait une 16 pages en fait, qui est un petit résumé. On aimerait avoir le temps de faire quelque chose de plus long en fait pour regrouper un peu plus d'informations que ça.
Bon, merci à vous d'avoir fait le voyage et pris tout ce temps.
Merci beaucoup. Voilà, donc si vous voulez, j'ai des dépliants des phosphatières. Et après, s'il y en a que ça intéresse, mais je vous pousse absolument pas au commerce, hein, c'est pas ça mon but. Si ça vous intéresse, vous avez là le petit livret qui est là à 2 € en fait, ici. Et après, j'ai des livrets faits par le parc naturel régional à 5 € qui sont un peu plus complets. Voilà.